Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Deuxième émission, Osons la philosophie, consacrée au Léviathan de Thomas Hobbes. Sujet choisi par Françoise Gernot. Bonjour
oui,
Françoise.
Fait. Bonjour à toutes et à tous.
Françoise aime le redoutable et là avec le Léviathan, nous sommes gâtés. Comment résumer, je ne sais pas si c'est résumé, comment dire aux auditeurs qui n'ont peut-être pas écouté la première émission, et c'est dommage pour eux, mais c'est toujours sur le site, comment reprendre un petit peu votre analyse du Léviathan?
Oui, eh bien, il s'agit... Je l'annonce de manière un peu péremptoire, d'un livre magistral de Thomas Hobbes, qui est donc le grand contemporain. Le livre est publié en 1652. Hobbes est aussi, et en même temps que grand penseur, il est aussi historien, et il est contemporain de la crise politique très très longue, celle de ce qu'on appelle la rébellion anglaise. Bon, je n'irai pas plus loin. Nous avons parlé un peu des éléments historiques qui peuvent aussi motiver certaines des thèses de Hobbes, c'est-à-dire la thèse selon laquelle seul un État doué de la puissance souveraine, un État rassemblé dans une entité unique, peut assurer la paix.
Et la sécurité.
Donc. Et la sécurité. Et par conséquent, la licence, une fois les lois respectées, à chacun de découvrir d'une certaine manière son style de vie, de chercher sa vocation et de voir cette vocation, les résultats de son travail, d'une certaine manière, réalisés heureusement. Il y a une idée tout de même, il y a une idée d'un certain bonheur, mais individuel, malgré tout. Tout ce qui peut apparaître comme formidable coercition de l'État vis-à-vis des hommes, un par un, qui ne sont que des sujets.
Oui, moi, ça m'avait beaucoup frappé dans la première émission, le désir de l'homme, de ce que vous aviez résumé d'un confort, en fait, d'un confort
oui,
de vie.
Alors, c'est toute l'ambivalence, mais je crois que nous allons terminer là-dessus. C'est toute l'ambivalence du livre de Hobbes. C'est un livre d'une extraordinaire clarté. C'est un livre sévère sur la puissance absolue qui doit être conférée. Nous allons parler de cette question de conférer son pouvoir à l'État. Mais en même temps, dès lors que l'État a assuré...
son travail.
La paix. Alors une paix, encore une fois, obtenue avec une main de fer, ou plutôt le glaive, comme dit. À partir de là, la liberté individuelle ressurgit sous une autre forme. Alors peut-être nous y reviendrons. J'ai peut-être
de la liberté.
j'ai peut-être trop vite donné ma conclusion, c'est-à-dire mon.
Non, mais je pense qu'elle est utile pour comprendre un peu le cheminement.
Mon hésitation à verser Hobbes purement simplement du côté d'un État qui serait une puissante force coercitive, écrasant les sujets. C'est vrai que la notion de citoyen n'apparaît pas. Et quand Hobbes parle de la citoyenneté en relation à la pensée grecque et surtout à Cicéron, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il récuse cette pensée républicaine-là, qui est aussi la pensée qui a été redécouverte à la Renaissance. Ouais. Donc c'est un anti-renaissant.
Et puis c'est un monarchiste convaincu.
Alors ça, c'est autre question. C'est un... un fervent défenseur et en tout extraordinairement dogmatique d'un pouvoir unifié, d'une puissance politique, d'une souveraineté une et indivisible.
Mais ça pose aussi la différence avec l'État totalitaire, puisque tout de suite, moi, j'ai posé la question.
L'État, alors nous anticipons, l'État visé par le Léviathan de Hobbes, est un état autoritaire. Ce n'est pas un état totalitaire. Pourquoi ? Parce que cet état, justement, parce qu'il concède cette liberté négative au sujet, cet état ne prescrit rien au titre d'une idéologie quelconque, d'un gouvernement de la vie qui serait en quelque sorte dicté par le politique. Pas du tout.
Mais quelquefois, vous voyez, vous pensez avoir peut-être trop dit, mais je trouve que parfois, commencer par la conclusion aide en fait à comprendre un peu le raisonnement.
Bon, alors, la question qui nous occupe maintenant est la suivante. Nous avons vu dans la première partie ceci. L'État, ou plutôt la condition humaine, naturelle, est celle d'une guerre de chacun contre chacun. Ou plutôt, c'est la condition dans laquelle chaque individu craint l'autre. C'est un état de peur. Le mot de crainte en français fonctionne mieux. C'est un état de crainte. Alors, pour en finir avec cet état de crainte, nous nous en sommes expliqués par la lecture d'un texte, eh bien, il s'agit de créer l'état, de créer un état, sur le mode, nous allons le voir, d'une véritable mécanique de construction de la paix. Et la question qui se pose, c'est quelle relation y a-t-il entre ces sujets individuels qui forment un par un les éléments d'une multitude et ce que l'on vise, c'est-à-dire un État unique, ou plutôt une entité politique qui réunisse de manière extrêmement ferme le peuple en une espèce d'unité suprême. Tout passe par le contrat social. Ce qu'on a appelé en français le contrat social, le pacte social. Donc, je vais vous donner quelques lectures. Si on en revient à la condition naturelle de l'homme, tout homme jouit d'un droit de nature. Et ce droit de nature consiste à user pour chacun de sa propre puissance. C'est en ce sens qu'un droit de nature sans règles, donc risque effectivement de dégénérer, de faire dégénérer la multitude des individus en être, en personne, en être plutôt belliqueux les uns vis-à-vis des autres. Nous sommes dans un régime, encore une fois, de guerre latente. Nous sommes, je cherchais un autre mot mais je ne le trouve pas, pardon. Et maintenant je vais enchaîner sur une autre donnée. Donc, tout commence, disais-je, avec un droit de nature, mais le droit de nature doit se transformer en loi de la nature. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de la nature ? Eh bien, la loi de la nature, c'est celle, dans le prolongement du reste du droit naturel, c'est celle qui nous permet d'œuvrer de telle sorte que nous soyons soumis à l'interdiction de faire ce qui détruit notre vie, qui la prive des moyens de la préserver. Je lis, la loi de nature est un précepte, une règle générale trouvée par la raison selon laquelle chacun a l'interdiction de faire ce qui détruit sa vie ou qui le prive des moyens de la préserver et de négliger de faire ce par quoi il pense qu'elle sera la mieux préservée. Alors, comment chacun sait-il comment il doit se préserver, préserver sa vie? Eh bien, en construisant, en imaginant et en construisant donc une unité puissante qui interdise justement ces jeux de concurrence, ces jeux de violence, tout devant être en quelque sorte soumis à la règle de l'un. Je lis. Parce que la condition humaine, comme cela a été établi au chapitre précédent, nous l'avons lu, est un état de guerre de tous contre tous, de chacun contre chacun, où chacun est gouverné par sa propre raison, et parce qu'il n'y a rien dont on ne puisse faire usage contre ses ennemis qui ne soit de quelque secours pour se maintenir en vie, il s'ensuit qu'au sein d'un tel état, donc l'état naturel, de belligérance, chacun a un droit sur toute chose, y compris sur le corps des autres. Et donc, aussi longtemps que perdure ce droit naturel de chacun sur toute chose, il ne saurait y avoir de sécurité permettant à quiconque de vivre tout le temps que la nature alloue ordinairement pour la vie. Et la première loi des hommes, c'est de s'efforcer à la paix. Or, pour s'efforcer à la paix, il s'agit de convenir avec d'autres hommes, chacun avec chacun de la multitude, pour justement produire, par un contrat, une sorte de transfert d'autorité. C'est-à-dire que le droit naturel que j'ai à agir absolument doit être contenu, limité par le droit d'autrui. Hein? Et en même temps, par le même coup, du même coup, ce contrat qui oblige chaque individu à renoncer à sa puissance naturelle et, potentiellement destructive, ce mouvement est en même temps le mouvement dans lequel chacun, par cette renonciation, par cette renonciation à son droit, transfère son droit.
Oui.
Transfère son droit sur, précisément, l'entité politique. Et une entité politique qui doit être puissamment unifiée. Donc, un droit, je lis, un droit est abandonné, soit par un simple renoncement, mais il ne s'agit pas de renoncer à son droit, parce qu'à ce moment-là, on ne vit plus, soit par un transfert à un autre. Reprenons justement ce qui concerne le pacte social où chaque individu, un par un, renonce à son droit de nature pour respecter finalement la première loi naturelle qui est de se conserver, de conserver sa vie, je dirais, en toute tranquillité. Alors, cela suppose, nous dit Hobbes, deux choses, hein, que chacun, évidemment, abandonne, chacun, tous également, abandonne son droit naturel, mais aussi, il faut en même temps créer précisément cette puissance souveraine qui va garantir la sécurité, garantir paix, l'avenir de chacun.
Paix et sécurité.
Paix et sécurité. Protection. On peut dire aussi protection. C'est à ce moment-là que Hobbes propose une thèse extrêmement originale, très théorique, très originale, du transfert d'autorité. Alors, tout homme dispose d'une autorité, c'est-à-dire d'une puissance d'agir. Autoritas, c'est la puissance d'agir. Or, chacun de ces hommes doit transférer cette puissance d'agir à l'un, au souverain. Mais qui est le souverain ? Qu'est-ce que le souverain ? Le souverain est évidemment une création de chacun de ces hommes de la multitude qui renoncent à son droit naturel. Le souverain, lui, n'est pas l'auteur, par exemple, de la loi, n'est pas l'auteur même de la puissance publique. Elle ne lui est que déléguée et il en est l'acteur. Donc, autrement dit, tout individu est auteur de la création de l'État, mais l'État lui-même n'est que l'acteur qui va agir au nom de tous. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit de penser de manière extraordinairement théorique le principe même de l'autorisation de la représentation. Donc, l'État représente. L'État représente les droits naturels de chacun de la multitude, mais il n'a de fonction que précisément d'ordonner la multitude, d'exercer un pouvoir, le pouvoir de la loi, de telle sorte, encore une fois, que la multitude soit en paix. Il y a un gain du côté de la multitude.
Mais ça, ça fait penser aux députés qui ne sont que le représentant du peuple.
Oui, mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est cette théorie de l'autorisation. Et référence, c'est bizarrement Cicéron. Cicéron distinguait entre l'auteur et l'acteur. Et Cicéron se présentait en tant qu'avocat comme l'acteur, comme en quelque sorte le porte-parole, comme en quelque sorte l'instance qui reprenait l'intérêt de celui qu'il défend, en quelque sorte. Donc la distinction entre acteur-auteur est empruntée à la rhétorique latine de Cicéron. Mais c'est intéressant d'imaginer que la représentation n'est jamais qu'une autorisation par les auteurs d'être un acteur.
Sur Radio Alliance Plus, nous entamons la deuxième partie de la seconde émission consacrée par Françoise Gernot au Léviathan de Thomas Hobbes. Nous avons écouté la même musique que dans la première émission, un presque contemporain de Hobbes, un rondeau de Purcell.
Oui, je poursuis en changeant un tout petit peu de registre et nous allons parler maintenant de ce que Hobbes appelle la définition de l'État. Voici. Donc il fait la différence entre les sociétés animales et les sociétés humaines. L'assentiment de ces créatures est naturel, les animaux. Celui des humains résulte seulement d'une convention, ce qui est artificiel. Contrat, pacte, convention. Il n'est donc pas étonnant que quelque chose d'autre soit requis afin de rendre leur assentiment constant et durable. Donc non seulement il faut du pacte,
mais
de la présentation,
durable,
mais il faut que ça tienne. Il faut que ce pacte ait consistance. Ce quelque chose est une puissance commune pour les tenir en respect et diriger leurs actions vers le bénéfice commun. Que cette association, ou plutôt cette puissance commune créée par l'association, les tienne en respect. A common power to keep them in awe. A-W-E, et nous retrouvons ce mot, awe, qui peut désigner une sorte de terreur sacrée. Et c'est parfois traduit par terreur. Alors nous avons échangé la crainte.
Ouais.
Contre la terreur. Passons.
Mais là, j'insiste sur cette notion de respect.
Oui, oui. C'est tenir en respect. Le mot « awe », A-W-E, est beaucoup plus violent que le simple mot « respect ». Il est beaucoup plus coercitif. Je continue. Le seul moyen d'établir pareille puissance commune capable de défendre les humains contre les invasions des étrangers, c'est tout de même la question de la protection vis-à-vis de la guerre. La guerre est
extérieur, les frontières, oui.
Et de défendre les humains des préjudices commis aux uns par les autres. Il s'agit de les protéger de telle sorte que par leur industrie propre et les fruits de la terre, ils puissent se suffire à eux-mêmes et vivre satisfaits. Il s'agit de rassembler, de conférer toute leur puissance. Et c'est ça qui est important. Il s'agit de rassembler toute leur puissance et toute leur force sur un homme. One man, pas un homme one man, un homme unique, ou sur une assemblée d'hommes qui peut, à la majorité des voix, ramener toute leur volonté à une seule volonté, one will. Ce qui revient à dire, il s'agit de désigner un homme ou une assemblée d'hommes pour porter leur personne. Et chacun fait sienne et reconnaît être lui-même l'auteur de toute action accomplie. Ou causés par celui qui porte leur personne, et relevant de ces choses qui concernent la paix commune et la sécurité. Par là même, tous et chacun d'eux soumettent leur volonté à sa volonté, et leurs jugements sont son jugement. C'est plus que le consentement ou la concorde, il s'agit d'une unité réelle de tous en une seule et même personne, faite par convention de chacun, avec chacun, de telle manière que c'est comme si chaque individu devait dire à tout autre individu, j'autorise cet homme, etc. Cela fait la multitude, ainsi unie en une personne une, est appelée un État, en latin civitas, telle est la génération de ce grand Léviathan, ou plutôt de ce Dieu mortel auquel nous devons, sous le Dieu immortel, notre paix et notre défense. Point.
Donc là, on est en plein dans ce frontispice, si
voilà.
Je comprends bien.
Oui, nous avions dit dès le début de notre première émission que le volume, je dis bien le volume du Léviathan de Hobbes, texte imprimé, était précédé d'un frontispice suggéré par Hobbes, déterminé par Hobbes, semble-t-il. Il semble qu'il aurait consulté et réussi à convaincre Abraham Bos, qui est le grand graveur de l'époque. Et évidemment, ce frontispice est une des choses les plus connues de l'histoire de la gravure et du livre.
Donc, il faut peut-être le décrire.
Alors, il faut peut-être le décrire. Bon, je renvoie nos auditeurs.
Donc, au visuel qui est sur le...
Au visuel, ouais. Qui décrit justement...
Enfin, on a mis la moitié pour qu'on voit vraiment les détails. Mais ce qui est très net... C'est que c'est automate, je reprends le terme d'automate.
Oui, mais là, pas tout à fait. Alors, que voyons-nous ?
Est constitué, enfin, son torse, ses bras, c'est constitué de la multitude.
De la multitude.
Alors, hommes, femmes, enfants,
voilà.
Vus de dos.
Oui. Alors, d'une part, la vignette. Il y a deux parties. J'isole seulement la première. La seconde est intéressante aussi, mais nous n'avons... Notre temps est compté.
Enfin, on peut juste dire qu'en voilà. dessous de la crosse, il y a la religion, et en dessous de l'épée, il y a l'armée. Quoi.
Comme puissance qui doivent être tenues sous l'empire de la puissance, de la souveraineté de l'État. Bien, que voyons-nous ? Alors d'abord, nous avons un peu à la manière des emblèmes de la Renaissance, bien que cette gravure soit de style baroque classique, avec effectivement un certain effet théâtral. Hein. Je ne peux pas trop m'avancer sur cette question-là. Nous avons ce qu'on appelle le motto, la phrase. Hein. Alors la phrase, c'est celle tirée de la Vulgate concernant le Léviathan. Hein. Il n'y a nulle autre puissance sur Terre qui puisse rivaliser avec elle. Voilà. Et enfin,
en dessous, il y a
la gravure. Nous voyons
un paysage, une ville.
Oui. Émergeant au-delà du paysage, nous voyons un être colossal, un colosse. Hein. Un colosse. Alors, nous avons le visage tout droit, le regard droit, la couronne. Hein. Le visage et la couronne qui représentent évidemment la souveraineté, le souverain, qui peut être aussi bien un souverain de droit divin qu'une souveraine, puisqu'il mentionne Élisabeth Ière, hein,
ouais.
que aussi, après tout, un parlement, mais unique. Hein. Donc, nous voyons le visage de la souveraineté, et nous voyons son corps, nous voyons son torse.
Son torse. Hein,
son torse qui émerge du paysage. Sous le paysage, il y a une ville. Nous voyons son torse, et son torse est comme s'il s'agissait d'une cuirasse avec des écailles, est formé de visages. Mais de visages qui tournent le regard.
Qui regarde le souverain.
Vers le souverain. Alors, cette multitude, on voit bien, cette multitude est extraordinairement cohérente. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants. Donc nous avons bien l'image de la manière dont Hobbes pense la souveraineté, donc sous cet être colossal se trouve le paysage, et sous le paysage une ville. Alors une ville qui a la particularité d'être désertée, sauf que quand on a un regard de lynx, et il y a eu un regard de lynx, on trouve dans cette ville déserte quelques soldats et surtout deux personnages qui sont les médecins de la peste avec leurs grands masques en bec. Comme si aussi ce qui pouvait hanter le politique, l'unité politique, c'était ou bien
la guerre, ou bien l'épidémie,
la guerre civile, ou bien
la maladie.
Et souvenons-nous à quel point nous avons accepté la privation extrêmement coercitive, extrêmement détaillée de nos libertés
au moment du Covid.
Où régnait la peste moderne qui était le Covid.
Oui, les autorisations de sortie et tout ça.
Nous avons souscrit très exactement à ce que nous dit Hobbes de les. Nous avons donc eu au moins une expérience, nous, de ce que pouvait être le règne de la puissance souveraine sur nos libertés privées.
Eh bien, nous sommes arrivés au bout, avec vous, Françoise, de cette analyse du Léviathan, œuvre redoutable, conclusion redoutable aussi, comme vous le disiez en introduction, dans des temps redoutables. Merci à vous et à une prochaine émission. Merci
à toutes et à tous.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus.